RFI, il est 16h à Paris, 14h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal à Paris, sur les Champs-Élysées, coup d'envoi de la parade des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques. On sera en direct avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. En Turquie, on reviendra sur les obsèques de la militante américano-turque Eysenur Ezgi Eygi, jeune femme tuée d'une balle dans la tête par l'armée israélienne lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée, c'était le 6 septembre dernier. À suivre également aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein. Certains électeurs sont tentés par les petits partis au risque de faire perdre les démocrates. Reportage à suivre. Et puis, au Japon, le Parti libéral-démocrate cherche son nouveau chef. On reviendra sur le débat télévisé où l'intégralité des 9 candidats ont participé. C'est un record. Direction les Champs-Élysées, on y est, c'est le coup d'envoi de la grande parade des athlètes des Jeux Olympiques, une ultime fête sur les Champs-Élysées, donc pour célébrer l'équipe de France. Quelques 300 Olympiens et Paralympiens doivent défiler sur le haut de l'avenue parisienne. La foule afflue et se positionne le long de la plus belle avenue du monde. On va tout de suite se connecter avec notre reporter qui est aux Champs-Élysées, Sylvie Coffi. Bonjour Sylvie.
Bonjour, donc c'est parti pour cette grande parade des champions. Le public a donc répondu massivement présent et a pris place le long des barrières réparties de chaque côté des Champs-Élysées. Au total, 70 000 personnes, soit l'équivalent du Stade de France, qui commence à acclamer les athlètes olympiques et paralympiques pour cette parade XXL qui vont défiler côte à côte. Alors, côté décor, un podium géant de 280 mètres qui va les accueillir lors de ce défilé. Et les premiers qui vont s'élancer sur cette scène, ce sont les volontaires comme Léonie, étudiante en physique, qui s'est occupée des athlètes au village olympique. Elle fait donc partie de ces 45 000 volontaires qui veulent dire merci à tous ces sportifs.
J'en reviens toujours pas et j'oublierai jamais du moment où j'ai reçu le mail comme quoi j'étais prise en tant que volontaire à toute mon expérience et à là ce jour aujourd'hui. C'est une super occasion de célébrer encore une fois ces Jeux qui ont été magnifiques, qui nous ont fait rêver.
Pendant ces Jeux de Paris, Léonie a donc versé quelques larmes, et elle n'est pas la seule, Juliette, à avoir versé des larmes de joie. C'est ça, la magie des Jeux.
Merci beaucoup pour vos précisions, Sylvie Coffi. Merci également à Nicolas Benita pour les moyens techniques. On va prendre la direction de la Turquie. Ce samedi midi se tenaient les obsèques de la militante américano-turque Eysenur Ezgi Eygi, la jeune femme de 26 ans, tuée d'une balle dans la tête par l'armée israélienne lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée le 6 septembre dernier. Son corps a été enterré dans le berceau familial de Didim, dans le sud-ouest du pays, en présence d'une foule nombreuse. Pendant la cérémonie funéraire, les officiels turcs ont une nouvelle fois dénoncé avec force la mort de leur compatriote à Ankara, Anand Loer.
Le vice-président de la République, le ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, celui des Affaires étrangères, le président du Parlement, mais aussi les chefs de plusieurs partis d'opposition, tous étaient rassemblés devant le cercueil, enveloppés dans un drapeau turc. Le président du Parlement, Numan Kurtulmuş, a parlé d'un jour de grande peine, mais aussi de grande colère pour la Turquie. Il a décrit Eysenur Eygi comme une martyre nationale, comme un symbole de la cause palestinienne qui est aussi, a-t-il ajouté, une cause nationale de la Turquie. Ce n'est pas seulement le crime de quelques soldats israéliens, a-t-il poursuivi, c'est le crime d'un État terroriste et de certains États complices qui soutiennent l'État terroriste. L'officiel turc s'en est pris sans le nommer au président des États-Unis, Joe Biden, qui avait parlé dans un premier temps d'un accident d'une balle qui aurait ricoché sur le sol. Le corps de la jeune femme avait été autopsié une première fois par des médecins palestiniens qui ont conclu à un tir direct des forces israéliennes. Une seconde autopsie a été pratiquée en Turquie dans le cadre d'une enquête pour crimes contre l'humanité confiée au parquet d'Ankara. Ankara, RFI.
La Russie et l'Ukraine ont procédé ce samedi à un nouvel échange de prisonniers, le deuxième en deux jours, libérant au total 206 personnes à l'issue de négociations, le tout sous la médiation des Émirats Arabes Unis. Les soldats russes libérés aujourd'hui avaient été faits prisonniers dans la région russe de Koursk, a précisé le ministère russe de la Défense. L'Ukraine a lancé début août une attaque d'ampleur dans cette région russe et dit s'être emparée de plusieurs centaines de kilomètres carrés. De son côté, Moscou revendique ce samedi la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. L'Est de l'Europe est en proie aux inondations. En cause, la tempête Boris qui a fait 4 morts ce samedi en Roumanie. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie se sont préparés depuis jeudi pour y faire face. La rencontre entre une masse d'air froid descendue du nord avec un air chargé d'humidité promet toutefois une catastrophe météorologique ce week-end, mais aussi dans les jours à venir. RFI, il est 10h05 à Washington. La campagne présidentielle continue. Chaque parti essaie de tendre la main au plus grand nombre d'électeurs, sauf que certains sont tentés par d'autres partis, les partis indépendants comme le Parti Vert ou le Libertarien. Et même s'ils n'ont aucune chance de gagner, ils pourraient récupérer quelques voix dans une course qui s'annonce très serrée. La plupart se situent à la gauche du Parti démocrate et laissent craindre de grappiller quelques voix progressistes. En réponse, le Parti démocrate a porté plainte dans des swing states pour les retirer du bulletin de vote, comme en Pennsylvanie et en Géorgie. Édouard Maï s'est rendu ce vendredi à un meeting du Parti pour le socialisme et la libération à Atlanta.
Devant une soixantaine de personnes, la candidate Claudia de la Cruz, pour elle, les démocrates et les républicains sont les mêmes, un constat partagé par Bruce, 36 ans, venu avec sa femme et sa fille.
Je ne me sens pas représenté par ces partis, les gens n'ont pas de logement, la plupart ne peuvent pas payer leur loyer, je peux continuer. La nourriture est trop chère et il est très clair qu'on n'a pas accès à nos besoins essentiels.
Plusieurs personnes portent un kéfier. Le parti milite pour soutenir la Palestine. Anna, 45 ans, regrette les positions des démocrates et républicains sur cette question.
Pendant le débat l'autre soir, les deux ont dit qu'ils soutiendront Israël. Aucun n'a dit qu'ils arrêteront la livraison d'armes.
Mais ces militants ne sont pas sûrs de pouvoir voter pour leur candidate en novembre. Après le recours en justice du Parti démocrate, la justice doit trancher, une démarche antidémocratique pour Amber, 32 ans.
C'est de l'hypocrisie. Les démocrates prétendent soutenir et se battre pour la démocratie, mais ils ne veulent pas qu'on ait accès à tous les choix sur le bulletin.
Mais ces électeurs sont formels. Si leur candidate n'est pas sur le bulletin, ils ne voteront ni démocrate ni républicain. Édouard Maï, Atlanta, RFI.
Au Mexique, 15 personnes ont été tuées dans des affrontements au sein du cartel de Sinaloa, selon les autorités. Pour rappel, ce cartel a été fondé par le narcotrafiquant Joaquim El Chapo Guzman. Au total, 20 personnes sont également portées disparues, selon un procureur local. Au Japon, le Parti libéral-démocrate cherche son nouveau chef. Il devrait succéder à Fumio Kishida, le Premier ministre, qui a renoncé à un nouveau mandat à la tête du parti. Par conséquent, il va aussi quitter ses fonctions à la tête de l'État. Cette démission intervient à la suite de scandales politico-financiers et de la baisse du pouvoir d'achat des ménages japonais. Son parti, qui domine la vie politique du pays depuis 1955, doit choisir entre 9 candidats. C'est un record. Tous ont participé à un débat télévisé. Les conservateurs sont tentés par le changement, mais ce débat a montré qu'il reste divisé entre la vieille garde et les réformistes. À Tokyo, Frédéric Charles.
Le candidat le plus jeune et le plus populaire du parti conservateur est Shinjiro Koizumi, 43 ans. C'est le fils de Junichiro Koizumi, un ancien chef du gouvernement japonais charismatique, qui proclama qu'il allait mettre à bas son propre parti. Tel père, tel fils, Shinjiro Koizumi veut changer le Japon, déréglementer l'économie. Le parti conservateur pourrait aussi porter au pouvoir pour la première fois une femme, en l'occurrence Sanae Takaichi, 63 ans. Elle représente l'aile la plus conservatrice et nationaliste du parti. Le Parlement japonais ne compte que 11% de femmes. Le parti conservateur est au creux de la vague. Les Japonais marquent leur préférence pour Shinjiro Koizumi. Il incarnerait la rupture avec un système politique qui a perdu la confiance de l'opinion publique. Près de la moitié des Japonais ne votent plus. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Après les inondations qui ont touché l'Asie du Sud-Est avec le typhon Yagi, au total ce sont près de 300 morts qui ont été décomptés en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande, dans des inondations et des glissements de terrain. Ferrarissime en Birmanie, la junte au pouvoir a demandé de l'aide étrangère après ces inondations meurtrières. Une démarche rare alors qu'au moins 33 personnes sont mortes dans ce pays. Plus de 235 000 habitants ont également quitté leur habitation ce samedi selon des médias d'État. Et puis en France, avant l'annonce du gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier, les Outre-mer plaident pour un nouveau ministre à la hauteur de l'urgence. Pour rappel, depuis 2017, 6 ministres des Outre-mer se sont succédés pour gérer les départements et collectivités françaises d'Outre-mer et leurs 2,8 millions d'habitants. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.